Europe 1, il est 22h. Tout de suite, le journal avec Isabelle Millet. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Karima, bonsoir à tous. Voici les titres de votre journal. Emmanuel Macron ne voulait plus entendre parler d'Alexandre Benalla. Eh bien, c'est raté. Nouveau rebondissement aujourd'hui. Paris a perdu près de 60 000 habitants en 5 ans. C'est l'un des enseignements des chiffres de l'INSEE publiés ce matin. La capitale qui séduit de moins en moins. Il y a également de fortes inégalités selon les régions. Il a 9 ans, d'excellents réflexes et une très bonne mémoire. Dans l'Indre, un petit garçon a aidé la police a retrouvé un fuyard. C'est un drôle de mec, un type bizarre. Bertrand Blier souhaite un joyeux anniversaire à sa façon à Gérard Depardieu. L'acteur a 70 ans aujourd'hui. L'Inter Milan sanctionné après les cris racistes contre le défenseur sénégalais de Naples, Kalidou Koulibaly. Il y a un terreau fertile en Italie pour ces dérapages, nous dira le consultant foot d'Europe 1. Elena Morna prévoit une belle journée demain pour ceux qui sont sur les sommets ou bien au bord de la Méditerranée. Pour tous les autres, du gris et du brouillard et des températures toujours bien fraîches. Prévision complète d'Elena à la fin de ce journal. Et puis on réécoutera ensemble une interview de Raphaël Duchemin que vous retrouverez tous les jours sur Europe 1 entre 13h et 14h dans la France qui bouge. Raphaël qui quotidiennement donne la parole à des femmes ou à des hommes qui œuvrent aux quatre coins du pays pour faire bouger les lignes et pour casser les codes des citoyens, des entreprises, des collectivités qui s'engagent et qui inventent le monde de demain. Ce soir, on sera avec Juivi Berekashvili, directeur général adjoint de la faïencerie de Gien dans le Loiret.
Europe 1.
Emmanuel Macron se serait donc bien passé de cette nouvelle affaire qui vire à l'affaire d'État, celle des passeports diplomatiques de l'embarrassante Alexandre Benalla. Le Quai d'Orsay affirme ce soir que l'ancien conseiller de l'Élysée aurait dû rendre ces documents dont il s'est servi à plusieurs reprises, notamment pour aller au Tchad, Adrien Beck.
Oui, non seulement il ne les a pas rendus, mais selon les informations de nos confrères de Mediapart, Alexandre Benalla aurait continué à les utiliser ces dernières semaines pour ses voyages, notamment dans des pays africains, sauf qu'en principe, ce type de passeport est réservé aux diplomates en mission. Des passeports, vous l'avez dit, réclamés fin juillet par le Quai d'Orsay, qui ce soir réagit avec fermeté par la voix de sa porte-parole. Toute utilisation depuis lors de ces passeports aurait été faite en dépit des engagements pris par Alexandre Benalla, le ministère des Affaires étrangères, qui dit aussi examiner les suites à donner, y compris judiciaires. Une fermeté qui intervient après celle de l'Élysée. Dans une lettre datée du 22 décembre, le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, Patrick Strodat, demande à Alexandre Benalla de donner toutes les informations pertinentes sur d'éventuelles missions personnelles et privées exercées comme consultant. Nous vous interdisons de vous prévaloir d'une quelconque recommandation ou un appui tacite de la présidence, ajoute Patrick Strodat. Lettre transmise au procureur de la République de Paris pour information, selon nos confrères du Monde. La mise en garde de l'Élysée, comme du Quai d'Orsay, est donc très claire.
Adrien Beck du service politique d'Europe 1. Le djihadiste Peter Sherif mis en examen ce soir pour association de malfaiteurs terroristes criminels en récidive. En raison de ses liens avec Al-Qaïda au Yémen, il avait été déféré la nuit dernière au parquet de Paris. La justice s'interroge aussi sur son rôle éventuel dans l'attentat de Charlie Hebdo. Peter Sherif a été placé en détention. La gare de Strasbourg a pu rouvrir il y a quelques minutes. Elle avait été fermée et le trafic totalement interrompu suite à une alerte à la bombe. Combien y a-t-il d'habitants en France? L'INSEE a publié aujourd'hui les nouveaux chiffres issus du traditionnel recensement. Nous sommes donc 66 332 000, la population française qui continue d'augmenter, mais avec de vraies disparités selon les régions, Justin Morin.
La Corse, l'Occitanie et les Pays de la Loire forment le podium des régions où la population augmente le plus, juste derrière l'Auvergne-Rhône-Alpes et la Nouvelle-Aquitaine. Croissance naturelle constante, arrivée de nouveaux habitants, ces territoires attirent. Et ce n'est pas étonnant de voir quelles sont les villes qui flambent. Elles sont les poumons de ces régions. Montpellier, Bordeaux, Nantes, Toulouse, Rennes et Lyon connaissent toutes une hausse de leur population au-dessus de 1%, autant de grands pôles urbains qui tirent la croissance de la démographie française vers le haut. Une surprise tout de même, c'est Paris intramuros qui a perdu autour de 60 000 habitants entre 2011 et 2016, et ça c'est nouveau. Les loyers prohibitifs poussent les habitants à s'installer en périphérie. Les chiffres le confirment. L'Essonne et la Seine-Saint-Denis profitent particulièrement de l'arrivée de nouveaux résidents. En revanche, la situation est plus difficile dans ce que l'INSEE appelle les moyens et les petits pôles. Des villes autour de 30 000 habitants, de Bourgogne-Franche-Comté par exemple, l'une des seules régions où la population n'augmente pas. Prenons Nevers, moins 3000 habitants sur la période étudiée. Ces zones semblent avoir perdu leur attractivité. Les communes isolées, loin des villes, décrochent aussi, autour de 0,2% par an en moyenne. La campagne bourguignonne ou celle de Lorraine sont particulièrement touchées par ces reculs de population.
Les précisions de Justin Morin. Malgré la menace des gilets jaunes durant la nuit du réveillon, les festivités prévues sur les Champs-Élysées à Paris sont maintenues. Il y aura donc bien un son et lumière à l'Arc de Triomphe, suivi d'un feu d'artifice. Ça aurait été dommage de s'en passer, estime Yann Brossa, il est adjoint à la mairie de Paris.
Ce sont des cérémonies qui font maintenant partie de la tradition de notre ville et la ville de Paris n'est pas sous cloche, donc il aurait été dommage de mon point de vue de ne pas les organiser. Donc le 31 décembre, il y aura bien les événements qui se tiennent d'habitude aux Champs-Élysées et puis par ailleurs, c'est quand même aussi un moment où la ville de Paris s'adresse au monde entier et donc nous considérons qu'il est important de maintenir ces festivités. Il y a par ailleurs des tas de Français qui ne sont pas parisiens mais qui profitent de ce moment-là pour faire la fête à Paris et donc ils ont le droit de le faire et ils doivent encore avoir le droit de le faire. Ça s'est passé tout à fait correctement au cours des années précédentes et nous souhaitons que ce soit le cas également. En tout cas, c'est un travail que nous faisons effectivement. C'est par ailleurs un dispositif du type fan zone, hein, avec un contrôle à l'entrée. Je suis confiant dans la capacité de la préfecture de police à faire en sorte que tout ça se passe pacifiquement.
Yann Brossa, adjoint à la mairie de Paris avec Pierre Herbulot. Notez que les transports en commun seront, comme chaque année, gratuits dans toute l'Île-de-France du 31 décembre à 17h jusqu'au 1er janvier à midi. Et un service spécial sera assuré pendant la nuit du réveillon. À la fin du service habituel vers 2h15, 6 lignes de métro continueront à circuler, la 1, la 2, la 4, la 6, la 9 et la 14. Les lignes A et B du RER rouleront dans les deux sens toute la nuit. En revanche, les lignes C et D, ainsi que certaines branches des lignes H, J, L, N, P et R des trains de banlieue circuleront uniquement dans le sens Paris-banlieue. Une centaine de gilets jaunes ont manifesté cet après-midi devant l'hôtel de police de Roanne dans la Loire en soutien à quatre des leurs convoqués pour entrave à la circulation sur un rond-point de la commune voisine de Mably.
Le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Merci d'écouter Europe 1, il est 22h07 et c'est la suite de votre journal avec l'histoire de ce petit garçon de 9 ans qui a donné un sacré coup de main aux policiers de l'Indre. Il leur a permis d'interpeller un chauffard en fuite. Il a en effet eu la présence d'esprit de retenir la plaque d'immatriculation du véhicule. Un geste qui lui a valu une lettre de félicitations mais aussi, ou surtout, une voiture de police télécommandée. Écoutez Michel Cassagne, il est le directeur de la sécurité publique de l'Indre.
Ce petit gars, ben, il voit le camion en train de faire ça, il se cache avec sa trottinette, il note la plaque dans sa tête, et ensuite, une fois que c'est fait, il rentre chez lui, il le dit à sa maman. C'est attendrissant de voir un petit gars qui se dit, tiens, quelque chose de pas bien qui se fait, du haut de mes 9 ans, je vais essayer de faire quelque chose. Ensuite, la performance, hein, parce que le fait de retenir une plaque, on n'en est pas tous capables, surtout les nouvelles. Et d'aller dire à sa maman, j'ai vu un camion qui faisait quelque chose de pas bien, et déjà à 9 ans, je sais ce que c'est le bien et le mal à ce niveau-là. Moi, j'ai trouvé ça oui hors du commun. C'est une initiative, on parle beaucoup d'initiatives citoyennes. Pour un bouchou de 9 ans, c'est plus que mérité. Et puis en plus, comme c'est Noël, on lui a fait cadeau une voiture de police radio-guidée. Et ça, ça lui a fait beaucoup plus plaisir que la lettre, à mon avis. Peut-être qu'il l'appréciera plus tard.
Le directeur de la sécurité publique de l'Indre, joint pour Europe 1 par Guillaume Bier. Le dépistage de la trisomie 21 dans l'ADN du fœtus grâce à une simple prise de sang chez la femme enceinte. Ce dépistage sera désormais remboursé par l'assurance maladie. L'arrêté vient de paraître au journal officiel. Cette nouvelle technique vise à diminuer le nombre d'amniosynthèses. Dans les faits, ce test est déjà proposé gratuitement dans les hôpitaux publics de France grâce à un protocole spécial dédié aux traitements innovants pas encore remboursés. Dans les Côtes d'Armor, les gendarmes, alertés hier par la présence d'une grenade sur une plage, ont eu la surprise de découvrir une simple pomme de pin. Ils avaient été appelés par une dame persuadée d'avoir vu cette grenade. Sur place, ils ont tout fouillé en vain. Ils ont fini par rappeler la dame en question. Cette dernière les a rejoints sur place pour leur montrer précisément l'emplacement du dit objet qui, en guise de grenade, s'avère donc être bien au final une pomme de pin. En Autriche, 5 moines ont été blessés, dont un grièvement lors d'un braquage aujourd'hui dans l'église d'un monastère en banlieue de Vienne. Les braqueurs réclamaient de l'argent liquide et des objets de valeur. Le caractère terroriste est écarté. La marine royale marocaine a secouru aujourd'hui en Méditerranée 367 migrants, majoritairement originaires d'Afrique subsaharienne, qui tentaient de rejoindre les côtes espagnoles sur des embarcations de fortune. À Madagascar, l'ancien chef de l'État, Andry Rajoelina, a officiellement remporté aujourd'hui la présidentielle. Il devance son rival Marc Ravalomanana, un scrutin marqué par des accusations de fraude. Ces chiffres pourraient d'ailleurs être contestés.
Isabelle Millet sur Europe 1.
Il est 22h09, c'est un monument du cinéma français. Gérard Depardieu qui fêtait aujourd'hui ses 70 ans. Écoutez l'hommage ce soir sur Europe 1 de Bertrand Blier, le cinéaste qui a lancé la carrière de Depardieu dans Les Valseuses. Hommage en demi-teinte.
C'est un drôle de mec, hein. Je viens de faire un film avec lui, il est très bizarre. Je trouve que le vieillissement ne lui va pas très bien. Je le trouve moins marrant maintenant qu'avant, mais meilleur, par contre, meilleur acteur. Je ne sais pas dire pourquoi, mais moi, il me touche beaucoup plus aujourd'hui. Plus le temps passe, plus il prend de la qualité. Ça a été frappant particulièrement dans son spectacle sur Barbara, qui a été un moment absolument fantastique, très émouvant pour tout le monde. Et donc ça, c'était extraordinairement bluffant, parce qu'on se doutait que ça serait bien, mais on ne se doutait pas que ça serait à ce point bouleversant. Or, il se trouve que la salle était en larmes. Donc il y a quelque chose, il y a un mystère, là. Il y a quelque chose, Depardieu est un génie, quoi, quelque part, il faut oser le dire. C'est quelqu'un de pas facile, c'est quelqu'un aussi d'extraordinairement agréable à fréquenter. Et puis par moments, on a envie de fuir. Enfin bon, il, comme tous les gens très importants qui marquent leur époque, ce ne sont pas toujours des gens faciles. J'imagine que Picasso ne devait pas être très simple non plus à fréquenter. Mais je lui souhaite un bon anniversaire et j'espère qu'il va continuer à être brillant.
Et voilà Bertrand Blier, joint pour Europe 1 ce soir par Diane Chenouda. Michelle Obama chipe le titre de femme la plus admirée par les Américains à Hillary Clinton, qui détenait ce titre depuis 17 ans. Et c'est l'ex-président Barack Obama qui reste pour la 11e année consécutive l'homme le plus admiré par ses concitoyens, devant Donald Trump, qui est en deuxième position pour la 4e année. L'Inter Milan, le club de foot sanctionné pour les cris racistes qui ont visé hier le défenseur sénégalais de Naples, Kalidou Koulibaly. Le club devra disputer deux matchs à huis clos à San Siro. Valentin Poluzzi est le consultant foot italien pour Europe 1. Pas vraiment surpris par ces nouveaux incidents.
Il y a un terreau fertile, hein. Faut pas oublier que l'Italie, c'est un peu le berceau de la culture ultra, les clubs de supporters politisés à l'extrême droite. C'est le cas de la Courbe Nord. De l'Inter hier soir, mais aussi le Las Verona, Lazio, il y en a d'autres. Il y a une part d'ignorance, évidemment, il y a l'effet de groupe, le sentiment d'impunité, parce que en Italie, c'est pas comme en Angleterre, il n'y a pas un système de surveillance caméra qui permet tout de suite de repérer les coupables. Et puis il y a aussi une volonté de déstabiliser l'adversaire, tout simplement, quand on s'attaque à sa couleur de peau, ça peut être à sa religion, à sa maman, des personnes décédées dans sa famille. Tous les coups sont permis. Il y a c'est vrai aussi un racisme décomplexé. Moi, je pense notamment à l'héritage de Benito Mussolini, des 20 ans du fascisme. Je ne veux pas remonter trop loin, mais bon, si vous allez dans le sud de l'Italie, sur des marchés ou dans des boutiques, vous trouvez parfois des bus ou des calendriers à l'effigie du Duce.
Valentin Poluzzi, consultant football italien d'Europe 1, il était avec François Claus. Vous avez forcément entendu parler du Boxing Day, cette tradition britannique, l'Angleterre où le foot ne prend pas de vacances à Noël. À peine la dinde digérée, les footballeurs de Première Ligue sont attendus sur les pelouses du Royaume. Le Boxing Day, c'était hier. C'est une tradition qui remonte à la fin du 19e siècle et que certains acteurs du foot français aimeraient bien exporter en France, à l'image du président du syndicat des clubs, Claude Michy.
C'est la possibilité, au moment où les gens sont disponibles, de pouvoir aller au stade et d'y aller en famille notamment. Ça soulagerait peut-être certaines périodes qui sont chargées avec des matchs la semaine, comme février ou mars. Donc c'est une nouvelle répartition qui serait peut-être plus adaptée au spectacle. Le sport est un spectacle et quand le public est disponible, il est bien aussi que les acteurs puissent produire le spectacle. Aujourd'hui, il y a une volonté des clubs peut-être d'aménager le calendrier pour que ça puisse exister. Après, il faut voir la Ligue de football professionnelle qui gère ce genre de choses. Il faut trouver les modalités avec le syndicat des joueurs pour que ça puisse avoir lieu et que ça puisse exister. Donc le monde change et bien évident qu'à un moment, on peut penser que cette solution arrivera en France.
Le président du syndicat des clubs, joint pour Europe 1 par Juliette Jay. Et puis pour finir, l'exploit de cet Américain qui a traversé l'Antarctique en ski de fond, seul, sans assistance. C'est un exploit et c'est une première. Colin O'Brady, c'est son nom, a parcouru 1600 km en seulement 54 jours, Julien Pierce.
Oui, ce qui donne une petite moyenne de 30 km par jour. Alors dit comme cela, ça ne semble pas si énorme, mais si on prend en compte la température, moins 30 degrés en moyenne, ce qui donne en ressenti un bon moins 50 avec les forts vents qui balaient l'Antarctique. Rajoutons à cela le poids des équipements indispensables pour survivre à une telle aventure. Tente, sac de couchage, nourriture, au total 180 kg de vivres et de matériel empilés dans un traîneau que Colin O'Brady a tracté inlassablement à travers le continent blanc. Alors oui, il s'agit bel et bien d'une prouesse, d'autant que les 125 derniers kilomètres, l'Américain les a fait d'une traite, 32 heures sans dormir pour devenir le premier homme à avoir traversé seul et sans assistance l'Antarctique du nord au sud. À seulement 33 ans, Colin O'Brady a depuis longtemps abandonné l'idée que son CV tienne sur une simple feuille A4. En 2008, en Thaïlande, ses jambes et ses pieds sont grièvement brûlés dans un incendie. Les médecins lui disent « Vous ne remarcherez jamais normalement ». Résultat, 18 mois plus tard, il remporte son premier triathlon et intègre l'équipe des États-Unis. Il y a deux ans, l'aventurier bat son premier record. Il escalade en 132 jours les 7 plus hautes montagnes des 7 continents, l'Everest, le Kilimandjaro ou encore l'Aconcagua, dompté en seulement 4 mois. Colin O'Brady est décidément un homme pressé.
Exploit donc de Colin O'Brady. Merci Julien Pierce. Et on jette un œil tout de suite sur la météo avec vous, Elena Morna. Comme aujourd'hui, la grisaille aura parfois du mal à se lever demain, Elena.
Eh bien, c'est bien ça le problème, justement, Isabelle, des anticyclones d'hiver. En l'absence de vent, c'est l'humidité qui reste plaquée au sol. Résultat, les nuages bas et les autres brouillards s'attardent souvent dans les vallées. La grisaille dont on a du mal à prévoir l'évolution, d'ailleurs. Alors, c'est vrai que ce sera plus simple demain, avec l'arrivée des nuages sur une grande partie nord et ouest, de la bruine dans le sud-ouest. Comme aujourd'hui, on aura localement des brouillards givrants le matin, surtout dans les vallées du nord-est, Massif central, mais aussi dans le Dauphiné ou entre la Seine et la Loire. Il fera toujours très beau sur les reliefs ainsi que sur le sud-est, jusqu'en Franche-Comté en Alsace. Le vent se lève en Méditerranée et là aussi le ciel s'éclaircira. Alors celui qui ne se lève pas, c'est le mercure, hein, avec moins 5 à 0 degrés sur une grande partie nord et centrale, plus doux sur le littoral avec 4 degrés à Brest, 6 à Toulon. Et puis demain après-midi, les températures resteront négatives, là où le brouillard ne se lèvera pas. Météo France prévoit 0 degrés jusqu'à 16 du nord-est vers la Corse. 3 pour Paris et Clermont-Ferrand, un peu moins gris samedi sur le nord et l'ouest, un peu plus gris dimanche sur le nord-est, très beau sur la moitié sud. Le passage 2018-2019 se fera dans le brouillard au nord, sous le soleil au sud.
La météo signée Elena Morna sur Europe 1.
Europe 1.
Et dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Claire Lemaître de boursier.com. A tout de suite sur Europe 1.
22h, 22h30, le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Et à 22h17 sur Europe 1, on s'intéresse comme tous les soirs à la bourse. Et c'est avec vous Claire Lemaître de boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Isabelle.
Wall Street a beaucoup hésité après son rebond spectaculaire hier.
Oui, les marchés étaient très très mal partis, mais ils se sont redressés dans les 30 dernières minutes de la séance. Le Dow Jones gagne finalement 1,14%, 23 139 points. Et le Nasdaq plus 0,38%, 6 579 points. Des indices qui se cherchent après s'être emballés. Hier, on a eu des gains de 5% et plus hier soir pour les indices. Il y a donc toujours beaucoup d'instabilité avec des craintes pour la croissance mondiale, les conflits commerciaux, mais aussi le shutdown. On est au 6e jour de blocage partiel de l'administration aux États-Unis. Les valeurs qui ont bondi hier atterrissent donc ce soir. Amazon repère 0,6%. Après avoir gagné 9% grâce à l'annonce de ventes record à Noël hier, Apple 7,06% également, Intel et Microsoft sont stables. Le pétrole avait flambé hier, il retombe, recul de 3,5%, on est à $44,61 le baril. Et puis c'est le même scénario pour le dollar qui est dans le rouge ce soir et donc l'euro monte de 0,8%, $1,1441.
Et le marché parisien, Claire, passe quant à lui sous la barre des 4600 points ce soir.
Oui, ça baisse encore pour le CAC 40 qui tombe à 4599 points. Il perd 0,6% ce soir. Et le bilan annuel s'annonce vraiment mauvais puisque l'indice parisien affiche désormais une perte de plus de 13% depuis le 1er janvier. Encore des difficultés ce soir pour les équipementiers automobiles. Valeo perd plus de 5%. Plastic Omnium, moins 4%. Michelin, moins 2,5%. Et puis Bouygues perd 2,1%. L'opérateur Bouygues Télécom va devoir verser une amende de 250 000 euros pour ne pas avoir assez protégé les données des clients de sa marque BNU. Sanction infligée par la CNIL, le gendarme de l'informatique et des libertés.
Le titre Vinci gagne un peu de terrain ce soir.
Ouais, sa filiale aéroportuaire Vinci Airports va devenir actionnaire majoritaire de l'aéroport londonien de Gatwick. Elle va racheter 50,01% des parts. Le montant du chèque s'élève à un peu plus de 3 milliards d'euros. Et puis le bilan est positif ce soir pour Fnac Darty, en hausse de 6%. Le groupe profite des ventes records du géant américain Amazon à Noël. Les autres marchés européens ont terminé en baisse. Ce soir, le FTSE perd 1,5% à Londres et Francfort lâche 2,4%. Bruxelles et Madrid, moins 1,4%. Amsterdam et Milan, moins 1,8%. Et le CAC 40 perd 0,6%. On est à 4 599 points.
Merci pour ce tour d'horizon détaillé, Claire Lemaître de boursier.com, et à demain. Il est 22h20, merci d'écouter Europe 1. Toute cette semaine et pendant ces vacances de fin d'année, nous allons retrouver à cette heure-ci Raphaël Duchemin. Raphaël qui est aux commandes de la tranche de la mi-journée sur Europe 1 avec son émission La France qui bouge tous les jours entre 13h et 14h. Elle s'intéresse à ces femmes et à ces hommes qui s'investissent pour faire évoluer notre société. Et chaque jour, elle vous présente l'entreprise qui va bien. On va réécouter quelques-unes de ses interviews ensemble pendant cette période de fête. Et ce soir, je vous propose de réentendre le directeur général adjoint de la faïencerie de Gien dans le Loiret. Kivi Berekashvili.
Bonjour Raphaël Duchemin.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes le directeur adjoint de la faïencerie de Gien. Et alors je ne savais pas, mais c'est un Anglais qui a créé la manufacture en 1821.
Oui, mais un Anglais né en France.
Ah, ça change tout.
ça change tout. En fait, Gien, c'est l'Europe avant l'entente cordiale ou le traité de Rome. Donc voilà, c'est un Anglais né en France qui a créé la faïencerie de Gien. Mais Gien, c'est une petite partie de l'histoire de France. Parce que depuis presque 200 ans, dans chaque maison française, il y a un petit morceau de Gien. Et puis Gien a vu passer différentes institutions, à peu près cinq croix, une vingtaine de présidents de la République, un empereur, quelques guerres. Voilà, donc c'est un petit morceau de l'histoire de France.
Et alors dites-moi, comment commence la fabrication de la faïence? Au départ, elle est blanche uniquement?
Au départ, c'est un peu de terre, de l'argile, du kaolin, oui, de l'eau, du bois pour chauffer les fours. Mais maintenant, ils sont chauffés au gaz. Mais voilà, c'est tout cet ensemble qui est composé directement à Gien, parce que tout est fabriqué à Gien, y compris notre propre pâte qui va permettre de fabriquer la faïence, suivant une recette que l'on garde jalousement.
Oui, vous avez plusieurs corps de métier, avec chacun une tâche bien particulière. J'ai regardé fabrication de la pâte, polissage à l'éponge, moulage, garnissage, émaillage, cuisson. Et à chaque fois, c'est une personne différente qui effectue les gestes qui n'ont pas changé.
Complètement. Les techniques sont pratiquement restées les mêmes. Il y a pour la fabrication d'une pièce, elle passe entre les mains de 30 maîtres faïenciers. Donc voilà, il y a encore un travail manuel très très important.
Combien de temps entre le démarrage de la pièce et sa réalisation finale?
72 heures.
72 heures. Le coach, Guillaume Gibault.
Donc moi je vous parle bien sûr de Made in France, de fabrication française. Quand on passe 72 heures à fabriquer un produit à la main en France, on s'imagine le coût que ça représente. Comment est-ce qu'on continue à faire grandir une société et à rester compétitif, arriver à trouver des clients, à vendre à un prix élevé? Quels sont les secrets de la maison pour durer et se projeter dans l'avenir?
Alors c'est un challenge, mais c'est un challenge qui dure depuis 200 ans. Parce que si Gien existe toujours aujourd'hui en 2018, c'est qu'elle a su se renouveler. Elle a su effectivement faire face à ces différents challenges qui se sont présentés tout au long de son histoire. Donc c'est clair que Gien n'est pas un produit de première nécessité. Donc on ne se réveille pas le matin en disant « je veux du Gien ». Donc il faut créer de l'envie, il faut créer de la passion, il faut être innovant, il faut arriver sur des nouveaux marchés, des nouveaux canaux de distribution. Voilà, donc il faut en permanence se renouveler, mais c'est le côté sympathique aussi.
Oui, parce que vous n'avez pas eu toujours des périodes faciles.
Non,
il y a eu
non.
un moment de creux, comme dans beaucoup d'industries ou de production artisanale. Et puis, vers les années 80, ça a redémarré parce que vous avez remis un coup de booster, vous avez essayé de changer un peu la manière de faire.
Oui, il y a eu effectivement des hauts et des bas qui ont suivi les différentes époques. Mais c'est vrai que l'art de la table, en général, on n'est pas dans un marché porteur. Donc il y a eu tous les soubresauts liés à ce marché avec la désaffection des listes de mariage. Donc il a fallu
l'arrivée aussi de la concurrence italienne notamment.
L'arrivée de la concurrence italienne, mais pas que. Donc on a effectivement énormément de concurrence asiatique. Donc pour rester compétitif en France aujourd'hui, donc il faut s'appuyer sur d'abord la compétence et le savoir-faire de nos faïenciers. Et ça, c'est quand même l'élément important et essentiel de la faïencerie de Vien. C'est qu'aujourd'hui, on a toujours une compétence extraordinaire au sein de la faïencerie et qui est capable de fabriquer toujours en France et en restant compétitif.
Dans les années 20, il y a les plus grands fours d'Europe qui ont été installés. C'est toujours le cas à la faïencerie de Vien ?
Écoutez, oui, parce que la faïencerie de Vien est la plus grande faïencerie d'Europe. Donc c'est la seule qui demeure de cette taille-là, en tout cas.
Vous avez connu des hauts, des bas, on l'a dit. Tout le monde n'a pas de faïencerie de Vien à la maison. En revanche, tout le monde connaît les carreaux du métro à Paris.
Oui, les carreaux du métro ont été faits à l'origine par Vien. Donc ils ont été biseautés manuellement pour pouvoir effectivement réfléchir et réverbérer la lumière qui était donnée avec des flambeaux.
C'est toujours vous qui les fabriquez aujourd'hui ?
Non, c'est plus nous, mais on a effectivement quelques projets dans les tiroirs pour revenir sur ce marché-là.
Aujourd'hui, vous êtes combien ? 140, c'est ça, à la
On est 140 à la faïencerie, oui.
Et vous exportez dans combien de produits ?
On exporte dans 48 pays. Alors, il y a des pays plus importants que d'autres, mais oui, l'exportation, en tout cas, l'export, ça sera, c'est notre potentiel de croissance. Donc, c'est vraiment sur ce marché-là qu'on travaille.
Est-ce qu'on est condamné à aller se développer en Chine, en Inde, là où il y a des marchés porteurs, des gens qui ont de l'argent, des moyens d'acheter ces produits ?
Alors, je ne sais pas si on est condamné, mais en tout cas, c'est clair que c'est un de nos objectifs. Nos objectifs, ils sont à l'export. C'est que la France est un marché... est un marché important, c'est le marché qui nous donne notre légitimité à l'export. Donc pour nous, il est essentiel d'être fort dans notre marché d'origine. Pour être fort à l'export, il faut d'abord être fort dans son marché d'origine. Mais il est clair que le potentiel de croissance, il est à l'export.
Merci beaucoup Givi Berakashvili d'être venu nous parler de cette vieille dame qui aura bientôt 200 ans, la faïencerie de Vien. C'était merci. L'entreprise qui va bien, merci.
C'était l'invité de Raphaël Duchemin que vous retrouvez tous les jours sur Europe 1 entre 13h et 14h dans La France qui bouge. Et dans un instant, on va jeter un œil sur les unes de vos quotidiens. Quelles sont les informations que nos confrères de la presse écrite ont choisi de mettre en avant ?
Europe 1.
Et voici donc ce que vous découvrirez demain matin dans vos quotidiens. Brexit, le scénario cauchemar du no deal, titre le journal L'Opinion. À 3 mois de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, la probabilité ne cesse de croître d'un divorce sans accord, aux conséquences économiques dramatiques, et la France est en première ligne. Dans les échos, Guillaume Bojan estime que ce Brexit a décidément du bon, au contraire, pour les entreprises françaises. Vinci vient d'en profiter en mettant la main sur l'aéroport londonien de Gatwick, le deuxième du pays, avec 46 millions de passagers par an. Coût de l'opération, un peu plus de 3 milliards d'euros pour reprendre la moitié du capital. Le Brexit va certes perturber l'économie britannique, concède Vinci, mais les perspectives restent excellentes compte tenu de l'afflux de touristes qui représente la moitié du trafic de Gatwick. Ce dernier deviendra le plus gros aéroport du réseau mondial de Vinci, qui avait dû faire une croix sur Notre-Dame-des-Landes, mais qui affirme que ce bon coup britannique ne remet pas en cause son envie de prendre le contrôle des aéroports parisien d'ADP. Démographie et politique, c'est le titre de l'édito de Laurent Baudin dans l'Alsace qui revient sur la dernière étude démographique de l'INSEE. On en parlait tout à l'heure dans le journal. L'Institut national de la statistique et des études économiques quantifie de manière très concrète, nous dit Laurent Baudin, ce que tout un chacun peut constater au quotidien. Les grandes agglomérations fourmillent de projets et de vitalité quand les villes moyennes, elles, sont en train de mourir. Quant aux villages, il y a longtemps qu'ils n'intéressent plus grand monde. Paris est l'exception qui confirme la règle. La capitale perd des habitants au profit de la grande couronne. Logique au regard du coût exorbitant, voire indécent des loyers dans Paris intramuros, sans oublier une politique automobile restrictive qui exclut de fait ceux qui ont besoin de la voiture pour aller travailler. Pour le reste, la poussée démographique des centres urbains tels que Lyon, Bordeaux ou Strasbourg ne surprendra personne. Elle est la conséquence du choix de tous les gouvernements depuis plus de 20 ans de concentrer les services publics dans les métropoles. Pour des raisons budgétaires, l'essentiel des moyens de l'État, notamment en matière de santé, a été reconcentré dans les grandes villes. Et puis mineurs isolés, les oubliés, titre Libération, enquête sur un système d'accueil des jeunes migrants, système qui est saturé. Dossier complet dans Libé avec notamment les limites des tests osseux. Vous savez, ces tests qui servent à déterminer l'âge exact des enfants ou des jeunes adolescents. Voilà donc pour ce petit tour d'horizon des unes de la presse que vous retrouverez dans vos kiosque demain matin. Et je vous souhaite de passer une excellente soirée à l'écoute d'Europe 1 en compagnie de Sophie Peters pour la Libre Antenne. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Isabelle. On se retrouve dans 28 minutes exactement pour les infos.
À tout à l'heure.